Le commandant D.D. Warren adorait les buffets à volonté. L'idée n'était jamais d'y manger des pâtes, un aliment bourratif et tout bonnement une erreur de stratégie s'il y avait moyen d'avoir du rôti. Non, elle avait peaufiné au fil des ans une technique très au point. Première escale, le buffet de crudités. Non pas qu'elle aurait tué pour de la laitue iceberg, mais en bonne trentenaire célibataire et obsédée du travail qu'elle était, elle ne s'encombrait pas de denrées périssables dans son frigo. Alors oui, le premier passage comprenait généralement des légumes, sinon avec son régime alimentaire, elle risquait le scorbut. Deuxième escale, de fines tranches de viande. De la dinde passable, du jambon rôti au miel un cran au-dessus, du rôti de bœuf saignant, le nec plus ultra. Elle l'aimait rouge cerise au centre et bien sanguinolent. Si sa viande ne sursautait pas légèrement quand elle la piquait avec sa fourchette, quelqu'un avait commis un crime de lèse-bœuf en cuisine. Mais elle mangerait quand même, évidemment. Dans un buffet à volonté, on ne peut pas se montrer difficile. Donc, un peu de salade, puis du rôti de bœuf saignant en fines tranches. Là, la première écervelée venue ne manquerait jamais de prendre des pommes de terre pour accompagner sa viande. Malheureuse ! Mieux valait faire descendre avec de l'aigle fin grillé en croûte de crackers. Pourquoi pas 3 ou 4 palourdes farcies, et bien sûr des grosses crevettes fraîches. Sans oublier la poêlée de légumes ou encore ses haricots verts en cocotte parsemés de leurs oignons frits croustillants. Voilà ce qu'elle appelait un repas. Le dessert constitue évidemment une étape cruciale dans un dîner au buffet. Le cheesecake relevait de la même catégorie que les pommes de terre et les pâtes. Erreur de débutant, abstenez-vous. Il était préférable de commencer par des crèmes ou des chips de fruits. Et puis, comme on dit, on a toujours une petite place pour de la gelée, voire de la mousse au chocolat, et de la crème brûlée, avec des framboises, l'extase. Ouais, elle se serait bien tapée une crème brûlée. De sorte qu'il était un peu regrettable qu'il ne soit que 7h du matin, et que ce qui ressemblait le plus à de la nourriture dans son loft du North End soit un paquet de farine. Didi se retourna dans son lit, sentit son estomac gargouiller et essaya de faire comme si c'était la seule partie d'elle-même qui avait faim. De l'autre côté de la rangée de fenêtres, le matin semblait gris. Encore une matinée de mars, froide et givrée. En temps normal, elle aurait déjà été debout et en route pour le central de police, mais elle avait bouclé la veille 2 mois d'enquête intensive sur une fusillade en voiture qui avait fauché un dealer plein d'avenir et une mère de famille qui promenait ses 2 enfants en bas âge. La fusillade, humiliation supplémentaire, avait eu lieu à 3 encablures du commissariat central de Boston, à Roxbury. La presse en avait fait des gorges chaudes. Les habitants du quartier avaient organisé des manifestations quotidiennes pour réclamer des rues plus sûres. Et le commissaire divisionnaire avait aussitôt formé une grosse cellule d'enquête, dirigée comme de bien entendu par Didi, parce que curieusement, une jolie fliquette blonde se ferait moins éreinter que le premier pantin venu. Cela n'avait pas dérangé Didi. D'ailleurs, elle ne vivait que pour ça. Le crépitement des appareils photos, la foule hystérique, les politiciens rougeaux. Qu'ils y viennent. Elle affronterait la vindicte populaire, puis se retirerait derrière des portes closes pour fouetter les ardeurs policières de son équipe. Un connard croyait pouvoir massacrer toute une famille pendant ses heures de service? Il ferait beau voir. Ils avaient dressé une liste de suspects potentiels et mis la pression. Et ça n'avait pas raté. 6 semaines plus tard, ils faisaient une descente dans un entrepôt désaffecté près des quais et tiraient leur homme de ses recoins sombres pour le traîner sous l'œil des caméras à la lumière crue du soleil. Sa brigade et elle seraient des héros pendant 24 heures, après quoi le prochain abruti se pointerait et tout recommencerait. Ainsi va le monde. Ça merde, on essuie, on tire la chasse, et ça remerde. Elle soupira. Se retourna d'un côté, de l'autre, passa la main sur son drap soyeux et soupira à nouveau. Elle devrait sortir du lit, se doucher, s'amuser comme une petite folle à s'occuper de son linge et nettoyer le capharnaüm qui lui tenait lieu de chez elle. Elle repensa au buffet. Et au sexe. Une étreinte torride, violente, où elle en prendrait pour son grade. Elle avait envie de pétrir un cul dur comme de la pierre. Envie de bras comme des sangles d'acier autour de ses hanches. De la brûlure d'un visage d'homme mal rasé entre ses cuisses, tandis qu'elle lacérerait de ses ongles ses mêmes draps blancs frais. Putain de merde. Elle rejeta les couvertures et sortit avec exaspération de la chambre, vêtue d'un seul t-shirt, d'une culotte, et d'un fin vernis de frustration sexuelle. Elle allait faire le ménage, un jogging, manger 12 beignets. Elle entra dans la cuisine, sortit la boîte de café en grains du congélateur, trouva le moulin et s'attela à la tâche. Elle avait 38 ans, nom d'un chien. Enquêtrice acharnée et incorrigible bourreau de travail. Elle se sentait un peu seule, sans mari sexy ni 2,2 mioches qui couraient dans tous les sens, trop tard pour changer la donne maintenant. Elle versa le café fraîchement moulu dans le petit filtre et appuya sur l'interrupteur. La machine italienne se mit en marche avec un ronflement, une odeur d'espresso se répandit et la calma un peu. Elle sortit le lait et se prépara à faire la mousse. Elle avait acheté ce loft dans le North End 3 mois plus tôt. Beaucoup trop bien pour une policière, mais c'était les joies d'un secteur immobilier en pleine crise à Boston. Les promoteurs construisaient, le marché ne suivait pas. De sorte que de modestes travailleurs comme Didi se voyaient soudain offrir un ticket pour la belle vie. Elle aimait cet appartement. Ouvert, aéré, minimaliste. Quand elle était chez elle, ça suffisait à lui faire penser qu'elle devrait y être plus souvent. Elle ne le faisait pas, mais elle y pensait. Elle finit la préparation de son latte et s'approcha de la rangée de fenêtres qui donnait sur une petite rue passante. Toujours agitée, toujours les nerfs en plotte. Elle aimait la vue qui s'offrait à elle. Une rue animée, pleine de gens très occupés qui se hâtaient. Toutes ces petites vies avec leurs petites urgences. Et personne pour la voir, s'inquiéter d'elle, attendre d'elle, quoi que ce soit. Voilà, elle n'était pas de service et pourtant la vie continuait. Pas une mauvaise leçon pour une femme comme elle. Elle souffla sur un petit amas de mousse, but quelques gorgées et sentit sa tension se relâcher un peu plus. Elle n'aurait jamais dû aller à ce mariage. C'était ça le problème. Les femmes de son âge devraient boycotter tous les mariages et les baptêmes. Foutu Bobby Dodge. Il s'était étranglé en prononçant ses vœux. Et Annabelle avait pleuré, jolie comme c'était pas permis dans sa robe bustier blanche. Puis la chienne, Bella, avait remonté la nef avec 2 alliances en or attachées à son collier avec un énorme nœud. Comment ne pas s'attendrir un peu devant un truc pareil? Surtout quand la musique avait commencé et que tout le monde s'était mis à danser sur « At last » d'Ita James, sauf elle, bien sûr, parce qu'elle était tellement prise par son boulot qu'elle n'avait jamais le temps de se trouver un petit ami. Didi but encore du latte, observa les petites vies animées en bas d'un air renfrogné. Bobby Dodge s'était marié. C'était ça le problème. Il avait trouvé quelqu'un de mieux qu'elle et maintenant, il était marié alors qu'elle... Bordel, elle avait besoin de sexe. Elle venait de lasser ses chaussures de jogging quand son portable sonna. Elle regarda le numéro, s'étonna, porta le téléphone à son oreille. « Commandant Warren » annonça-t-elle sèchement. « Bonjour, mon commandant. Capitaine Brian Miller, district C6. Désolé de vous déranger. » Didi haussa les épaules, attendit. Puis, comme le capitaine n'enchaînait pas tout de suite, « En quoi puis-je vous être utile ce matin, capitaine Miller ?»« C'est que j'ai une affaire... » Une fois encore, la voix de Miller resta en suspens, et une fois encore, Didi attendit. Le district C6 était le commissariat du secteur qui couvrait le quartier de South Boston. En tant que commandant à la brigade criminelle, Didi travaillait peu avec les enquêteurs de cette zone. South Boston n'était pas vraiment connu pour ses meurtres. Viol, cambriolage, braquage, oui, homicide, pas tellement. Le central a reçu un appel à 5 heures du matin, finit par expliquer Miller. Un homme qui a découvert en rentrant chez lui que sa femme avait disparu. Didi eut l'air étonné, se rassit dans son fauteuil. Il rentrait chez lui à 5 heures du matin? Il a signalé la disparition à cette heure-là. Il s'appelle Jason Jones, ça vous dit quelque chose? Ça devrait? Il est journaliste au Boston Daily. Il couvre l'actualité de South Boston, publie des articles sur la communauté urbaine. Apparemment, il travaille presque tous les soirs pour suivre les réunions du conseil municipal, les conseils d'administration, que sais-je. Mercredi, c'était le syndicat des eaux, et ensuite on l'a envoyé sur un incendie domestique. L'un dans l'autre, il a bouclé vers 2 heures du matin, et quand il est rentré chez lui, sa fille de 4 ans dormait dans son lit, mais sa femme était aux abonnés absents. D'accord. Les premiers intervenants ont suivi la procédure habituelle, continua Miller. Ils ont fait le tour de la maison, la voiture est dans la rue... Le sac à main et les clés de la femme sur le bar de la cuisine. Aucun signe d'effraction, mais dans la chambre du premier, une lampe de chevet cassée et un édredon vert et bleu disparu. D'accord. Vu les circonstances, une mère qui aurait laissé un enfant seul et j'en passe, les premiers intervenants ont appelé leur responsable, lequel a contacté mon supérieur au commissariat de secteur. Inutile de dire que nous avons passé les dernières heures à ratisser le quartier, interroger les commerçants, rechercher la famille et les amis, etc. Pour faire court, je suis dans le bleu total. Vous avez un corps ? Non, madame. Des taches de sang, empreintes de chaussures, traces de lutte, juste une lampe fracassée. Les premiers intervenants ont bien vérifié dans toute la maison, grenier, sous-sol, vide sanitaire. On essaie. Le mari, c'est pas qu'il refuse, mais enfin, il n'est pas franchement coopérant. Oh, fait chier. Et d'un seul coup, Didi comprit. Pourquoi un enquêteur de district appelait un commandant de la brigade criminelle pour une disparition, et pourquoi le commandant de la brigade criminelle n'irait pas faire son jogging. Madame Jones, elle est jeune, blanche et jolie, c'est ça? Enseignante, blonde, 23 ans, le genre de sourire à vous illuminer un écran de télé. Pitié, dites-moi que vous n'en avez pas parlé sur nos fréquences. Pourquoi croyez-vous que je vous ai appelé sur votre portable? C'est quoi l'adresse? Donnez-moi 10 minutes, j'arrive. Didi abandonna ses chaussures de sport dans le séjour, son short dans le couloir et son t-shirt dans la chambre. Un jean, une chemise blanche col boutonné, une paire de bottes qui tue et elle était prête. Elle fixa son bip à sa ceinture, suspendit sa plaque à son cou, glissa son portable dans sa poche arrière. Dernière halte pour son blouson en cuir caramel préféré accroché à une patère près de la porte. Puis le commandant Warren se mit en route, ravi d'avoir du boulot. South Boston avait une histoire longue et mouvementée, même à l'aune de Boston. Coincé entre un quartier d'affaires trépidant et l'océan bleu vif, c'était une pittoresque cité portuaire qui offrait tous les avantages de la grande ville. À l'origine, cette zone avait été peuplée par des populations déshéritées. Des immigrants irlandais, pour la plupart, qui tiraient le diable par la queue et s'entassaient à 30 par pièce dans des immeubles pouilleux où des seaux tenaient lieu de latrines et où un tas de paille devenait un matelas infesté de puces. La vie était dure, et la maladie, la vermine et la pauvreté, le lot commun. 150 ans plus tard, Southie était autant un état d'esprit rebelle qu'un quartier. Il donna le jour à Whitey Bulger, un des plus célèbres barons de la pègre de Boston, qui, dans les années 70, fit des projets immobiliers de la ville son terrain de jeu personnel et rendit dépendant la moitié des habitants tout en employant l'autre. Et malgré tout, le quartier avait résisté. Chacun prenait soin de son voisin. Chaque génération de petits durs futés engendrait une nouvelle génération de petits durs futés. Les étrangers ne comprenaient pas, et pour les habitants de Southie, c'était aussi bien comme ça. Malheureusement, rebelle ou pas, il faut à un moment donné rentrer dans le rang. Un jour, une grande manifestation portuaire attira des hordes de citadins dans le quartier. Ils débarquèrent en s'attendant à des quartiers sordides et des rues délabrées et découvrirent des vues sur mer, une abondance d'espaces verts et des écoles catholiques de premier ordre. Voilà un quartier, à 10 minutes du centre de Boston, où le plus dur le samedi matin était de décider si on allait prendre à droite vers le parc ou à gauche pour aller flâner sur la plage. Inutile de dire que les jeunes cadres dynamiques trouvèrent des agents immobiliers et qu'en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, les vieux immeubles devinrent de luxueuses résidences en fond de mer et les maisons de 4 étages qui se trouvaient dans les familles depuis des générations furent vendues à des promoteurs pour 5 fois la valeur qu'on leur aurait jamais donnée. Le quartier y perdit et y gagna à la fois. Accueillit d'autres classes sociales et origines ethniques, garda ses parcs magnifiques et ses rues arborées, se dota de nouveaux cafés, conserva ses pubs irlandais, davantage de jeunes cadres aux dents longues, encore beaucoup de familles avec enfants. Un coin sympa si vous aviez acheté avant que les prix ne deviennent délirants. Didi suivit son GPS jusqu'à l'adresse indiquée par le capitaine Miller. Elle se retrouva non loin de la mer devant un petit bungalow désuet, marron et crème, avec une pelouse grande comme un mouchoir de poche et un érable dénudé. Deux idées lui vinrent en même temps. Quelqu'un avait construit un bungalow à Boston, et deux, le capitaine Miller était bon. 5h30 après une demande d'intervention, toujours pas de ruban de scène de crime, pas d'escadron de véhicules de patrouille, et mieux encore, pas de longue file de camionnettes de médias. La maison semblait paisible, la rue semblait paisible, le calme qui précède la tempête, comme on dit. Didi fit 3 fois le tour du pâté de maison avant de se garer finalement à plusieurs rues de là. Si Miller avait réussi à tenir aussi longtemps sans publicité, elle n'allait pas vendre la mèche. En arrivant à pied, les poings serrés dans les poches, les épaules voûtées contre le froid, elle découvrit Miller dans le jardin de devant qui la guettait. Il était plus petit qu'elle ne s'y attendait, avec des cheveux bruns clairsemés et une moustache des années 70. Il avait le physique d'un excellent agent infiltré, tellement quelconque que personne ne le remarquerait. Alors de là à s'apercevoir qu'il écoutait des conversations importantes, il avait aussi le teint blafard d'un homme qui passait le plus clair de son temps sous les néons. « Grave-papier », songea Didi, qui réserva immédiatement son jugement. Miller traversa la pelouse et lui emboîta le pas. Il ne s'arrêta pas, alors elle non plus. Il faut parfois être un peu comédien quand on mène une enquête. Aujourd'hui, il jouait, semblait-il, le rôle d'un couple en route pour une petite promenade matinale. Le costume marron froissé de Miller était un peu guindé pour le personnage, mais Didi, en jean moulant et blouson cuir, était d'enfer. « Sandra Jones travaille au collège », expliqua rapidement Miller à voix basse pendant qu'il longeait le premier pâté de maison et se dirigeait vers la mer. « Elle est prof et enseigne plusieurs matières en sixième. Deux de nos agents y sont, mais personne n'a eu de ses nouvelles depuis qu'elle a quitté l'établissement hier à 15h30. Nous avons mené l'enquête de voisinage auprès des petits commerces, débit de boissons, épicerie, rien. » La vaisselle du dîner est dans l'évier. Une pile de copies corrigées à côté de son sac à main sur le bar de la cuisine. D'après le mari, Sandra ne se mettait généralement pas au travail avant d'avoir couché leur fille à 8 heures. Donc, on part de l'hypothèse qu'elle était à la maison avec sa fille, au moins jusqu'à environ 8h30-9h. Le téléphone portable ne montre aucun appel après 6 heures. Nous avons demandé un relevé de ligne fixe. Et la famille? Des grands-parents, des oncles, des tantes, des cousins? Demanda Didi. Le soleil avait enfin troué la couverture nuageuse grise, mais l'air restait vif. Le vent soulevait des embruns et transperçait sans pitié son blouson de cuir. Pas de famille dans la région. Juste un père en Géorgie avec qui elle est brouillée. Le mari n'a pas voulu préciser et il s'est contenté de dire que c'était l'histoire ancienne et que ça n'avait rien à voir. C'est bien gentil de sa part de réfléchir à notre place. Vous avez appelé le père? Je le ferais si j'avais un nom. Le mari refuse de vous le donner? Demanda Didi, incrédule. Secouant la tête, Miller enfonça les poings dans les poches de son pantalon. Son haleine formait des petits nuages de vapeur. « Oh, attendez d'avoir rencontré le Lascar. »« Ça vous arrive de regarder cette série, celle qui se passe dans un hôpital ?»« Urgence ?»« Non, celle avec plus de sexe. »« Grey's Anatomy ?»« Ouais, celle-là. Comment il s'appelle le médecin ?»« Latour ?»« Balour ?»« Mamour ?»« Celui-là même. »« Monsieur Jones pourrait être son jumeau. » Les cheveux vaguement ébouriffés, le début de barbe. Sûr qu'à la minute où l'info sera diffusée, ce type recevra plus de courriers d'admiratrices que l'autre qui a tué sa femme, là, Scott Peterson. Je dirais qu'on a une vingtaine d'heures devant nous et ensuite, soit on retrouve Sandy Jones, soit on sera dans la merde jusqu'au cou. Didi poussa un gros soupir. Ils arrivèrent en bord de mer, tournèrent à droite, continuèrent. Les hommes sont trop cons, marmonna-t-elle avec impatience. « Enfin, je comprends pas. On dirait qu'il se passe pas plus d'une semaine sans qu'un beau mec qui a tout pour lui essaie de résoudre ses problèmes conjugaux en tuant sa femme pour ensuite prétendre qu'elle a disparu. Et pas une semaine sans que les médias se précipitent. Les paris sont ouverts. 5-1 que la première interview sera pour Nancy Grace, 4-1 pour Greta Van Susteren. » Didi lui lança un regard noir. « Et pas une semaine sans que la police forme une cellule d'enquête, que des volontaires ratissent la forêt, que la gendarmerie maritime drague le port et vous savez quoi ?» Miller semblait plein d'espoir. On découvre le corps de la femme et le mari se retrouve à tirer de 20 ans à perpète dans un quartier de haute sécurité. On pourrait croire qu'au moins un de ces types se résoudrait à un bon vieux divorce maintenant, non ? Miller ne voyait rien à répondre. Didi soupira, se passa la main dans les cheveux, soupira encore. « Ok, simple réaction viscérale. Vous pensez qu'elle est morte ?»« Oui, » répondit simplement Miller. Comme elle attendait, il expliqua, la lampe cassée, l'édredon disparu. « Je dirais que quelqu'un a enveloppé le corps et l'a embarqué. » L'édredon a dû contenir le sang, d'où l'absence de preuves matérielles. « D'accord, vous pensez que c'est le mari ?» Miller sortit une feuille de calepin jaune pliée de sa veste sport marron et la lui donna. « Ça va vous plaire. Si le mari s'est montré, disons, réticent à répondre à nos questions, il nous a en revanche fourni son emploi du temps de la soirée, y compris les noms et numéros de téléphone des gens qui pourraient confirmer sa présence. Il a fourni une liste d'alibis ? s'étonna Didi en dépliant la feuille. Elle lut le premier nom de la liste. Larry Wade, capitaine des pompiers, puis James McConagall, police d'État du Massachusetts, suivi de trois autres noms appartenant cette fois-ci à la police municipale de Boston. Elle continua de lire, les yeux de plus en plus ronds, puis ses mains se mirent à trembler de rage à peine contenue. « Redites-moi qui est ce type, déjà ?»« Journaliste, Boston Daily. Une maison a brûlé hier soir, il prétend qu'il y était pour faire un papier et la moitié de la police de Boston avec lui. » « Sans blague, vous avez appelé ces types ?»« Non, je sais déjà ce que je vais obtenir comme réponse. »« Ils l'auront vu, mais pas vraiment, » traduisit Didi. « C'était un incendie, tout le monde travaillait. Peut-être qu'il a demandé un commentaire à chacun d'eux, donc ils l'auront remarqué à ce moment-là, mais ensuite quand il a filé. »« Ouais, question alibi, il frappe fort d'emblée. Il a une demi-douzaine de gars de chez nous pour dire où il se trouvait hier soir, même s'il n'y était pas en permanence. » Conclusion. Termina Miller en agitant un doigt vers elle. « Ne vous laissez pas embobiner par les beaux yeux de Monsieur Jones. Le docteur Mamour en a aussi dans le ciboulot. Y a pas de justice. » Didi lui rendit le papier. « Il a demandé l'assistance d'un avocat ?» Ils arrivèrent à un coin de rue et, d'un commun accord, firent demi-tour et prirent le chemin du retour. Ils marchaient face au vent à présent. La forte bise plaquait leurs blousons sur leur poitrine et les embruns leur fouettaient le visage. Pas encore, il refuse seulement de répondre à nos questions. Vous l'avez invité à vous accompagner au commissariat ? Il a demandé à voir notre mandat d'amener. Étonné, Didi prit acte de cette information. Le docteur Mamour en avait vraiment dans le ciboulot. En tout cas, il connaissait mieux ses droits que le plantigrade moyen. Intéressant. Elle rentra le menton, détourna son visage du vent. Aucune trace d'effraction ? Aucune, et tenez-vous bien, la porte d'entrée et la porte de derrière sont toutes les deux métalliques. « Sérieux ?»« Ouais, avec des verrous à double entrée. Oh, et on a trouvé des chevilles en bois enfoncées dans la plupart des cadres de fenêtres. » Sans rire, quand il marie. « C'est une des questions auxquelles il n'a pas souhaité répondre. »« Est-ce qu'il y a une alarme, de la vidéosurveillance peut-être ?»« Non et non, même pas une caméra pour la nounou, j'ai demandé. » Ils approchaient de la maison à présent. Le charmant bungalow des années 50, apparemment mieux protégé que Fort Knox. « Des verrous à double entrée, » murmura Didi, « pas de caméra. Je me demande si ce dispositif vise à empêcher quelqu'un d'entrer ou de sortir. » « Vous pensez qu'elle était maltraitée ? Ce serait pas la première. Il y a un enfant, vous dites. Une fille de 4 ans, Clarissa Jane Jones. Il l'appelle Ree. Vous avez parlé avec elle ? » Miller hésita. La gamine a passé la matinée recroquevillée sur les genoux de son père, l'air assez traumatisé. Comme j'avais aucun espoir que ce type nous laisse lui parler seul à seul, j'ai pas insisté. Je me suis dit que je reviendrais vers ces deux-là quand on aurait un peu plus de billes. Didi hocha la tête. Interroger les enfants est un art difficile. Certains enquêteurs savent s'y prendre, d'autres non. Elle devinait à sa réticence que Miller n'était pas trop à l'aise avec ça, ce qui expliquait pourquoi c'était Didi qui touchait un gros chèque en fin de mois. « Le mari est confiné ? » demanda-t-elle. Ils gravirent le perron du bungalow et s'approchèrent d'un paillasson vert vif, parsemé de fleurs jaunes, et sur lequel on lisait « Bienvenue » en lettres manuscrites bleues. Le genre de paillasson qu'une mère et sa fille pourraient choisir, songea Didi. Le père et la fille sont dans le séjour, j'ai laissé un planton, c'est ce que je peux faire de mieux pour l'instant. « Pour l'instant, » accorda-t-elle en s'arrêtant devant le paillasson. « Vous avez fouillé la maison ?»« Les 90%. » Les voitures ? Oui. Les dépendances ? Oui. Interroger les petits commerçants, les voisins, les amis, la famille et les collègues ? C'est en cours. Et toujours aucune trace de Sandra Jones. Miller consulta sa montre. Environ 6 heures après l'appel du mari, toujours aucune trace de Sandra Jones, jeune femme blanche de 23 ans. Mais vous avez quand même une scène de crime potentielle dans la grande chambre. Un témoin potentiel en la personne de la fillette de 4 ans et un suspect potentiel en celle du mari journaliste. Ça résume bien ? Ça résume bien, confirma Miller avec un geste vers la porte d'entrée qui trahissait pour la première fois une pointe d'impatience. Par où vous voulez attaquer ? La maison, le mari ou la gamine ? Didi posa une main sur la poignée. Une première réponse instinctive lui vint, mais elle prit le temps de raisonner. Les toutes premières heures d'une enquête, lorsque l'alerte a été donnée mais qu'il n'y a pas encore de crime, sont toujours cruciales. Ils avaient des soupçons mais pas encore de mobile. un individu à auditionner, mais pas encore de principal suspect. Juridiquement, tout ce qu'il pouvait faire risquait de les mettre dedans. Didi soupira, comprit qu'elle n'était pas prête de rentrer chez elle, et fit son choix.